France Inter.
Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Les influenceurs et leurs trop belles promesses. La répression des fraudes en épingle 150 et pourrait faire bien plus, tant les pratiques sont douteuses. Édouard Philippe, visé par une enquête du parquet national financier, l'ancien Premier ministre, perquisition aujourd'hui au Havre, la ville dont il est le maire. L'actualité, c'est encore une grève totale annoncée en juin dans les cliniques privées, très remontée contre le tarif de leurs actes médicaux. Un trafic de faux papiers en ligne, plus de 3 millions de documents vendus, 2 personnes ont été arrêtées. L'Europe riposte aux panneaux solaires chinois à prix cassé. Nous sommes aussi dans l'Yonne, où certains maires redonnent leur tracé naturel au cours d'eau pour éviter les crues. Rester assuré face au changement climatique, question posée au téléphone sonne juste après ce journal. Vous nous appelez au 01 45 24 7000.
France Inter.
Ils inondent les réseaux sociaux de leurs vidéos, de voyages, de mode, de cuisine, les influenceurs et leurs dérives. 2 ans maintenant que la répression des fraudes traque leurs fausses promesses. Publicité déguisée, conseils de santé douteux, les contrôles ont été doublés. Bonsoir Julien Baldacchino.
Bonsoir.
Et sur les quelques 300 influenceurs contrôlés, la moitié ne respecte pas les règles.
Oui, au total, entre 2022 et 2023, un peu plus de 150 avertissements ou sanctions ont été adressés à des influenceurs par la DGCCRF qui lance ses contrôles essentiellement suite à des signalements avec des manquements de gravité différentes, la plupart du temps des questions de publicité non affichées, selon Maryse Sudry, directrice de cabinet adjointe à la DGCCRF.
Pour une grande majorité, l'anomalie porte sur l'absence de l'intention commerciale et de l'affichage de l'intention commerciale. Autrement dit, ils ne signalent pas à leurs followers qu'ils sont rémunérés pour faire cette publication. Pour autant, dans certains cas, nous avons aussi constaté des anomalies plus graves qui portaient sur la promotion de produits dont on ne peut pas faire la promotion, par exemple notamment des produits contrefaits ou encore des actes de chirurgie esthétique.
La sanction la plus visible, ce sont des publications explicatives que les influenceurs sont contraints d'afficher sur leur compte après avoir été épinglés, un moyen de dissuasion puissant pour la répression des fraudes.
L'enjeu est double, c'est informer les followers de ces influenceurs des pratiques commerciales de l'influenceur et par ailleurs informer les autres influenceurs que nous contrôlons les pratiques commerciales trompeuses et donc de les dissuader de les reproduire.
Et parmi tous les influenceurs chez qui des anomalies ont été signalées, 35 font aussi l'objet de suites pénales pour les faits les plus graves.
La répression des fraudes qui prévient qu'elle va encore renforcer les contrôles cette année et plusieurs marques d'alcool, dont Pérignon notamment, viennent aussi d'être condamnées à plusieurs milliers d'euros d'amende pour avoir demandé à des célébrités, dont des influenceurs, de promouvoir leurs produits. L'association Addiction France est à l'origine de la procédure pour faire respecter la loi et vin en ligne.
Une enquête ouverte et des perquisitions au
C'est son maire, l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui est visé par cette enquête du parquet national financier avec l'une de ses adjointes et la directrice générale des services de la communauté urbaine. Bonsoir Sarah Guibaudeau.
Bonsoir.
L'enquête concerne l'exploitation de la cité numérique du Havre.
Oui, elle a été inaugurée en septembre 2020 à côté des docks Vauban. La communauté urbaine confie alors les clés à une association, LH French Tech, pour organiser des ateliers de programmation pour les enfants, d'impression 3D ou d'accompagnement de start-up en échange d'une subvention de plus de 2 millions d'euros sur 4 ans. Le montage choisi est plus souple qu'un marché public. L'association est seule candidate et sa présidente, bénévole, est déjà adjointe à la mairie du Havre et élue de la métropole. Ce cumul de fonctions ne va durer que quelques mois, mais dans l'administration, certains commencent à tiquer. Les règles de la commande publique ont-elles été respectées? Les salaires versés par l'association ne sont-ils pas trop élevés au regard de son activité? Question posée désormais par la justice. Le maire Édouard Philippe affirme coopérer, il l'a dit à nos confrères de France Bleu Normandie.
Donc évidemment, nous avons moi-même, les élus, l'ensemble des services administratifs, nous sommes à la disposition des magistrats et nous avons répondu et nous allons répondre à toutes les questions qu'ils posent pour démontrer très sereinement et de toute bonne foi que nous avons respecté les règles.
En 2022, une cadre chargée du projet de cité numérique avait dit avoir alerté et même rédigé une note pour Édouard Philippe. Son contrat ne sera pas renouvelé. Elle a alors porté plainte, mais veut rester anonyme. L'enquête est ouverte pour prise illégale d'intérêt, favoritisme, détournement de fonds publics et harcèlement moral à son encontre.
Explication Sarah Guibaudot. Il n'y a eu personne aujourd'hui pour féliciter Quentin Bataillon de son passage à la télévision hier. Le président de la commission d'enquête sur les fréquences TNT sur le plateau de Cyril Hanouna, qu'il avait auditionné il y a quelques jours, et pour critiquer l'un de ses concurrents, en l'occurrence Yann Barthès de l'émission Quotidien. À gauche, on juge que c'est assez pour que le président de la commission d'enquête démissionne, et jusque dans la majorité, la présidente de l'Assemblée nationale lui a rappelé son devoir de réserve et de discernement. Lui était, il y a encore quelques heures, l'un des proches conseillers de la porte-parole du gouvernement. Jusqu'à cette enquête du site d'information Mediapart, s'intéressant à son parcours, Alexis Bétan, plume de Prisca Thévenot. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Un conseiller au profil particulier.
Un profil, oui, qui penche ou a penché clairement du côté de l'extrême droite. Un jeune homme qui confesse une attirance pour les idées de l'essayiste Alain Soral, multicondamné pour ses positions antisémites, négationnistes ou homophobes, qui s'est longtemps fait le relais sur les réseaux sociaux, comme le montre Mediapart, de personnalités allant de Marine Le Pen au théoricien du grand remplacement Renaud Camus, et qui a travaillé pendant plus de 2 ans pour la branche française de la chaîne de propagande russe Russia Today. Lui assume avoir été séduit à une époque par les radicalités. Il dit avoir évolué et estime qu'il était utile justement pour sa connaissance de ces discours d'extrême droite et d'extrême gauche. Il a démissionné donc hier soir sans attendre la publication de l'enquête. Du côté du porte-parole, on assure que personne n'était au courant de son passé. Olivier Véran, qu'il a recruté en octobre sur les conseils de sa directrice de cabinet avant de le recommander en janvier à sa successeur Prisca Thévenot, assure qu'Alexis Bétan avait nettoyé son CV. Les deux ministres jurent en tout cas que ce conseiller qui rédigeait les discours de remise de Légion d'honneur et d'inauguration, selon Olivier Véran, n'avait aucune influence politique.
Merci Simon Le Baron. Prisca Thévenot qui a dû se corriger très vite. Par ailleurs, ce midi, après avoir affirmé qu'une tentative de passage à l'acte avait été déjouée le week-end dernier, week-end de Pâques, au moment où elle évoquait des menaces d'attentat en sortie de Conseil des ministres, c'est son entourage qui a rectifié le tir auprès des journalistes. Il ne s'est rien passé ce week-end, mais début mars, un homme qui voulait s'en prendre à des lieux de culte a été arrêté. Un face-à-face inédit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le premier ministre et lui seul a répondu aux questions des députés. Une expérimentation de 5 semaines voulue par Gabriel Attal. Quant au passe-rail, 49 euros pour les moins de 27 ans que le gouvernement veut expérimenter sur les TER et les intercités, les régions sont prêtes à essayer au moins l'été prochain, malgré de grosses réserves qui ont continué à s'exprimer dans la journée, notamment le fait que l'Île-de-France ne soit pas concernée.
Les cliniques privées appellent à une grève totale au mois de juin.
Très remontée contre les tarifs de leurs actes médicaux, ce que la sécurité sociale paye pour un acte de soins. C'est le secteur public qui sort grand gagnant des revalorisations de cette année, une hausse de plus de 4%, alors que ça ne bouge quasiment pas dans le secteur privé. Le bras de fer est donc engagé, et pour continuer à mettre la pression sur le gouvernement, les cliniques privées annoncent donc ce soir une mobilisation massive pour le mois de juin. Lamine Garbi est le président de la Fédération de l'hospitalisation privée.
Nous ne pouvons pas accepter cette iniquité de traitement de campagne tarifaire entre le public et le privé. Il y a une campagne tarifaire qui est 15 fois supérieure à la nôtre. Nous, on nous octroie 0,3% avec l'inflation qu'il y a aujourd'hui qui est de 3, 4, 5%. Comment voulez-vous que l'on puisse fonctionner? Comment voulez-vous que l'on puisse augmenter nos collaborateurs? Comment voulez-vous que l'on puisse investir des investissements, un scanner, un IRM, c'est plusieurs millions d'euros, un robot, c'est plusieurs millions d'euros? Comment pouvons-nous faire? Ce n'est plus possible. Et donc, ça détruit l'accès aux soins et ça détruit également la médecine libérale qui ne pourra plus exercer si, petit à petit, nous disparaissons. Et c'est le cas parce que 60% des cliniques sont dans le rouge aujourd'hui.
Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, joint par Victor Dolande, les cliniques privées qui représentent 35% de toute l'activité hospitalière. Le jugement sera rendu à la mi-mai dans le procès de ces deux militants qui avaient pris l'initiative et le risque de neutraliser eux-mêmes une partie de l'arsenal de l'ETA quand l'organisation a déposé les armes. 1 et 2 ans de prison avec sursis ont été requis aujourd'hui par le parquet national anti-terroriste. antiterroristes. Ils vendaient tout, fausses cartes d'identité, cartes vitales, permis de conduire. Deux hommes viennent d'être arrêtés en Normandie et dans la région de Toulouse. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Parce que soupçonnés d'avoir écoulé en moins de deux ans près de 3 millions de faux documents en ligne.
Oui, et pour passer commande, pas besoin d'être un expert en informatique. Le site était visible de tous, jusqu'à faire ouvertement sa publicité, comme ici sur le réseau X.
Marre de devoir utiliser Photoshop pour vos documents ? Découvrez CelqueScan, notre générateur de documents français et étrangers 100% éditable en ligne. Retrouver un large choix de documents.
2 700 000 documents fabriqués, 54 000 visiteurs par jour, un business lucratif, pourrait-on se dire ? Eh bien, même pas, car la majorité était accessible gratuitement. Les deux hommes interpellés, 21 et 23 ans, sont décrits comme plus motivés par le défi que par le gain, même si les clients pouvaient payer pour certaines options. L'enquête a été menée par l'Office de lutte contre le trafic illicite des migrants, sous l'égide de la section cyber du parquet de Paris. Elle démarre en août 2022. Les enquêteurs détectent d'abord un forum dans lequel les mêmes hommes sont soupçonnés d'avoir proposé cette fois des tutoriels pour commettre différentes infractions, dont des faux documents. Aujourd'hui, qui se connecte aux pages en question tombe sur les logos de la police et de la justice accompagnés de la mention « Ce site internet a été saisi ». Fin de partie donc pour ces deux amateurs de jeux en ligne, désormais sous contrôle judiciaire.
Et qui doivent être jugés en septembre prochain à Paris. Ils encourent 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. C'est la première fois qu'ils se parlent depuis un an et demi. Les ministres des armées français et russes, Sébastien Lecornu et Sergueï Shoigu, ont discuté au téléphone aujourd'hui après l'attentat de Moscou. Le ministre français prêt à des échanges accrus avec la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et puis des violences plus que jamais incontrôlables à Haïti. Les gangs armés qui contrôlent déjà une bonne partie de Port-au-Prince, la capitale, sont en train de prendre la Bibliothèque nationale d'assaut. Ils ont repris les pillages de la ville depuis le début de la semaine.
La vigilance rouge est maintenue dans l'Yonne.
Alors que le pic de crue a été atteint à Tonnerre ou encore à Chablis, sans dégâts majeurs dans les domaines viticoles, la ville de Joigny, qui elle se trouve sur l'Yonne, voit encore l'eau monter. Mais la commune est habituée, traversée par de nombreux ruisseaux et rivières, qui ont d'ailleurs parfois été déviés ou aménagés. Le maire essaie aujourd'hui de leur rendre leur tracé naturel, ce qui joue beaucoup en cas de crue. C'est le reportage de notre envoyé spécial, Ajra Mohamed.
Hervé habite au bord du ruisseau d'Oc, cet affluent de l'Yonne qui, il y a quelques années encore, sortait de son lit à la moindre crue. En 2018, l'épisode l'avait beaucoup marqué.
Ça avait débordé au milieu de la rue. Ça avait carrément abîmé tous les trottoirs tout le long de la rue. Il y avait la moitié de la rue du Bois Frileux qui avait été inondée.
Mais depuis ce matin, la situation est sous contrôle.
Pour l'instant, ça déborde pas. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des travaux. Bon, ils ont l'air d'être efficaces puisqu'il se maintient dans son lit, donc tout va bien.
La communauté de communes du Jovinien a effectivement mené des travaux. Travaux sur le rudoc, dévié par l'homme durant le XXe siècle à plusieurs reprises. Il a enfin retrouvé son cours naturel, le maire de Joigny, Nicolas Sauret.
On a fait un gros travail pour enlever les ouvrages qui avaient été posés là d'année en année, pour faire en sorte que par exemple les propriétaires qui ont monté des murs pleins le long des cours d'eau, eh bien, percent leurs murs pour être sûr que l'eau puisse s'évacuer. Donc on est en train de corriger ces errements des décennies passées, mais il faut du temps pour cela. Les normes à appliquer sont assez strictes et c'est surtout excessivement coûteux.
Un coup de pouce financier de l'État ne ferait pas de mal, selon l'élu, qui sera encore sur le pont cette nuit pour gérer cet épisode de crue, un de plus à Joigny.
Reportage Ajra Mohamed. Le week-end dernier en Indre-et-Loire, quelques 80 communes ont été touchées par les inondations et 400 habitations sinistrées. Ils aiment l'humidité, les champignons, mais là encore, tout est question de proportion. Près de 9% des espèces qui ont été étudiées par les scientifiques en France sont menacées d'extinction. On l'apprend aujourd'hui, comme le bolet rubis, le lactaire des saules notamment. C'est une enquête inédite du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Florian Kirchner y est responsable des espèces.
Les grandes menaces qu'on trouve sur ces espèces forestières, c'est beaucoup des menaces qui touchent leurs habitats naturels, donc la sylviculture intensive, avec par exemple l'abattage des vieux arbres ou même les coupes rases. Il y a un petit peu l'urbanisation aussi qui touche les habitats. Et puis pour beaucoup, le changement climatique. Les champignons, en fait, sont très vulnérables à l'assèchement. et ils souffrent de l'augmentation de la fréquence des tempêtes et des incendies. Donc, si on veut préserver les champignons, il faut agir sur ces menaces, il faut prévoir une gestion forestière qui préserve les champignons, il faut préserver les zones où on trouve un grand nombre d'espèces de champignons menacées, et il faut, comme pour d'autres espèces, lutter dès maintenant et avec détermination contre le changement climatique. Mais ce qui est préoccupant malgré tout, c'est qu'on a un quart des espèces qu'on n'a pas pu évaluer et qui sont classées en catégorie données insuffisantes. Or, parmi ces espèces non évaluées, pour lesquelles on manque d'informations, il y a probablement un grand nombre d'espèces menacées. Donc le pourcentage d'espèces menacées pourrait augmenter dès que les connaissances auront suffisamment progressé.
Florian Kirchner avec Hugo Ossiou. Un appel d'offres géant sera lancé sur l'éolien offshore 10 gigawattheures en janvier prochain. C'est l'équivalent de la consommation électrique de 10 millions de Français par an. Le gouvernement veut l'installation d'une cinquantaine de parcs. Le débat public est ouvert depuis le début de l'année. Tandis que l'Union européenne riposte à la concurrence chinoise sur les panneaux solaires. Les fabricants européens sont hors course. La Chine casse les prix, vend le panneau 4 fois moins cher. L'Union a donc annoncé l'ouverture d'une enquête contre 2 groupes chinois aujourd'hui, pressentis pour concevoir et exploiter un parc photovoltaïque en Roumanie. Elle profite d'un nouvel arsenal législatif. Angélique Bouin est à Bruxelles.
Pour lutter contre cette concurrence déloyale, la Commission dispose en effet d'une nouvelle arme. Les entreprises qui répondent à un appel d'offres public européen de plus de 250 millions d'euros et qui bénéficient d'un certain montant de financement étranger doivent le notifier. LONGi est le premier fabricant mondial de panneaux solaires. Shanghai Electric est une société d'État. Les 2 groupes chinois sont donc dans la course pour exploiter ce parc photovoltaïque et l'ont donc signalé. L'enquête doit permettre d'identifier si la façon dont ils ont été subventionnés fausse le marché. Si tel est le cas, ils pourraient ne pas le remporter. Récemment, les Européens ont fait de même avec le numéro 1 mondial du train, le chinois CRRC, qui s'est finalement retiré d'un marché public en Bulgarie. Grâce à une autre réglementation récente, la Commission enquête sur les subventions publiques accordées aux voitures électriques chinoises. Moins naïve face aux géants asiatiques, l'Europe s'efforce de défendre ses intérêts, mais en prenant le risque d'ouvrir une guerre commerciale avec Pékin. La Chambre de commerce chinoise dans l'UE se dit ce soir gravement préoccupée par ces enquêtes et dénonce, je cite, un pouvoir discrétionnaire excessif accordé à la Commission.
Angélique Bouin depuis Bruxelles. On parle d'une retraite, celle de la star danoise de handball, Mikkel Hansen. Il annonce qu'il la prendra après les Jeux de Paris cet été à 36 ans. C'est l'un des plus beaux palmarès du hand mondial, champion d'Europe en 2012, olympique en 2016 et triple champion du monde tout de même.
Et puis Hélène, les choses sérieuses commencent pour le prix du livre Inter.
Bah oui, on peut le dire, sous la présidence, vous le savez, d'Isabelle Huppert, elle était l'invitée du 13-14 ce midi avec l'indispensable Eva Bétan, impressionnée toutes les deux par les auditeurs qui nous ont encore écrit nombreux pour faire partie du jury. Les 24 ont été choisis. Le plus jeune s'appelle Oscar Sodini-Levet, il est étudiant en lettres, il a 18 ans, il habite Paris et il n'était pas tout à fait prêt.
Là, je suis en cours actuellement, mais j'ai reçu plein de messages de mes parents, de ma sœur, de mes profs aussi. J'étais en contrôle, en version de grec. Ça m'a vraiment fait un choc, je ne m'y attendais pas.
Est-ce que vous aviez peur que votre jeunesse soit un handicap ?
Un peu. Je me disais que ça pouvait peut-être donner l'impression que je ne m'y connaissais pas assez en littérature.
Dans votre lettre, vous avez raconté comment, très jeune, en entendant quelque chose, vous avez été amené à la littérature. Racontez-nous
oui.
ça.
Oui, j'étais sur une route de vacances. J'étais avec ma mère et elle avait mis la radio. J'ai entendu donc la voix de Guillaume Gallienne qui lisait la fin de Madame Bovary. J'avais l'impression de découvrir là quelque chose de vraiment très beau et de mystérieux à la fois. Et c'est ça qui m'a ouvert, je pense, la porte à la littérature.
Quel âge aviez-vous ?
9 ans.
Et ben voilà, la passion de la lecture démarre très tôt chez les auditeurs de France Inter avec Madame Bovary. Lui et 23 autres jurés vont donc devoir maintenant lire la dizaine de livres en compétition. Ils ont jusqu'au 2 juin, date de la remise du 50e prix du livre Inter. La liste des livres en compétition, vous la retrouvez évidemment sur le site de France Inter. Et puis encore un mot pour vous dire qu'on connaît la programmation du 78e Festival d'Avignon, qui se déroulera cet été du 29 juin au 21 juillet, un peu plus tôt pour cause de Jeux Olympiques. Il y aura 3 spectacles dans la cour d'honneur, dont 2 présentés par des metteuses en scène, c'est rare, l'Espagnole Angelica Lidl et la Polonaise Marta Gornika. Le 3e sera mis en scène par un autre Polonais, Christophe Warlikowski.
Eh bien, merci beaucoup Hélène Philippe. Vous reviendrez demain dans un instant pour nous, c'est le téléphone sonne. On va parler de l'assurabilité, en bon français, de vos maisons à cause de la sécheresse. À cause des inondations aussi, on jette d'abord un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster.
toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Et Sébastien Léas, une journée agitée sur le nord pour demain.
Oui, de la pluie, des averses et même du vent au programme pour demain entre les côtes de la Manche et le Grand Est et des pays de la Loire au Poitou jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté. Entre les Hauts-de-France et l'Alsace, quelques coups de tonnerre seront même possibles. Évidemment, cette journée se passera le plus souvent sous un ciel chargé, mais on peut compter sur quelques belles éclaircies le matin sur la Bretagne et la Normandie, puis l'après-midi au nord de la Seine. Cette perturbation pluvieuse et venteuse concernera essentiellement les régions de la moitié nord, puisque plus au sud, seuls quelques paquets nuageux, doublés d'un voile plus ou moins épais, déborderont vers la Gironde, le Massif central, la moyenne vallée du Rhône et les Alpes du Nord. Au sud de la Garonne et sur les régions de la Méditerranée, la journée sera encore plus ensoleillée avec un ciel bien dégagé, hormis sur la Côte d'Azur qui sera concernée par des grisailles. Ces entrées maritimes pourront aussi toucher les plages du Languedoc, mais de manière plus temporaire.
Et forte hausse des températures.
Oui, surtout dans le quart sud-ouest, hein, puisque les maximales vont gagner 3 à 5 degrés par rapport à aujourd'hui. Le seuil de chaleur de 25 degrés sera même dépassé. On attend par exemple 25 degrés à Pont-et-Montauban, 24 degrés pour Carcassonne, 23 degrés à Grenoble, 22 degrés à Brive-la-Gaillarde et Avignon. Il fera 21 degrés à Saint-Étienne, 20 degrés à Bastia, 19 degrés pour Montpellier, 18 degrés à Paris et Besançon, 17 degrés pour Mulhouse, Rouen et Reims, mais seulement 14 degrés à Dunkerque et à Brest. Cette grande douceur va progressivement s'accentuer vendredi et se généraliser pour samedi.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.